Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Éric Boisset. Aujourd'hui, nous recevons Ghislain Waterlo pour parler de mystique et philosophie. Ghislain Waterlo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Bonjour Ghislain. Alors on dit Waterlo ou Waterlo? Comment il faut le prononcer?
Les deux se disent.
Les deux se disent. Donc vous nous laissez la liberté du choix. Donc sous sa version francisée, donc bonjour Ghislain Waterlo. Je vais faire une présentation de vous qui sera un tout petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce que en fait votre biographie va épouser presque le mouvement de l'émission qui va suivre, et donc c'est comme ça que je m'en justifie. Vous êtes agrégé de philosophie et vous enseignez la philosophie à l'Université de Genève en faculté de théologie, ce qui en soi est déjà original. Et vous avez d'abord travaillé en fait dans le champ du théologico-politique sur la question de la tolérance et des relations entre religion et politique, Église et État, ce qui a donné deux ouvrages, « Réforme et tolérance » chez l'Harmattan, et un autre, « Voltaire, le procureur des Lumières » aux éditions Michalon. Puis vous avez travaillé sur Rousseau, ce qui a abouti à un ouvrage intitulé « Rousseau, religion et politique », et vous avez aussi dirigé un ouvrage collectif intitulé « La théologie politique de Rousseau ». Et puis, vous avez rencontré Bergson. Et vous avez réalisé avec Frédéric Keck la première édition critique des deux sources de la morale et de la religion en 2009 et dirigé aussi un collectif intitulé Bergson et la religion, nouvelle perspective sur les deux sources de la morale et de la religion. Et puis, un ouvrage, donc une monographie qui est consacrée à cette question, qui s'intitule « Les enjeux de la mystique chez Bergson entre philosophie et théologie » qui paraîtra chez Champion en 2015. Ce travail sur Bergson vous a amené à vous tourner vers la question de la mystique et son rapport à la philosophie, d'une part, et au corps social, d'autre part. Et c'est cela qui vous a amené à fonder, en fait, l'Institut roman de systématique et d'éthique, donc de fonder dans cet Institut roman de systématique et d'éthique un séminaire permanent intitulé « Mystique et figures mystiques ». Et là, je vous avoue, c'est l'intitulé qui m'a saisie. L'intitulé même ne pouvait manquer de nous inspirer ici aux Racines du Ciel, puisque nous parlons si souvent de mystique et de philosophie. Enfin, nous allons pouvoir parler de mystique et de philosophie. Et je vous cite, tant c'est important, en fait, tant pour les philosophes que pour les théologiens, une approche renouvelée de l'expérience mystique serait d'un grand intérêt. Elle attirerait l'attention sur une réalité de l'expérience humaine que nous ignorons trop, spécialement en France, où l'ignorance sur le fait religieux prend des proportions spectaculaires. Elle ouvrirait aussi de nouveaux champs de réflexion sur les limites de l'expérience humaine et sur l'éthique. Et c'est donc à cette ouverture du champ de la réflexion que nous invitons aujourd'hui nos auditeurs.
Alors Ghislain Waterlo, comme vous, je partage une grand intérêt pour Bergson et notamment pour ce livre, je crois que c'est son dernier livre d'ailleurs, Les deux sources de la morale et de la religion.
C'est son dernier livre, alors La pensée et le mouvant paraîtra après, mais ce sont des articles qui avaient été publiés auparavant.
Alors je crois que ce serait intéressant pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce livre, vous puissiez nous expliquer un petit peu l'objet de ce livre et comment Bergson s'intéresse aux faits mystiques, pour quelles raisons et qu'est-ce que ça apporte à sa philosophie, à sa pensée.
L'objet de ce livre est de comprendre la situation de l'homme dans l'histoire et ce qu'il en est du fait moral chez les humains, chez les êtres humains. Puisqu'auparavant, Bergson s'était intéressé à la vie et il avait écrit avec un énorme succès « L'évolution créatrice ». Mais il y a quelque chose d'inattendu qui s'est passé lorsqu'il en est venu à se préoccuper d'anthropologie. Il hésitait, il se demandait s'il n'allait pas travailler d'abord sur l'esthétique, l'expérience esthétique, et puis il voulait aussi croiser l'expérience morale. Mais il a découvert, à cette époque-là, c'est-à-dire en 1909, juste après la publication de l'Évolution créatrice, la mystique. Et il dira en 1911 à Joseph Lott, qui l'interrogeait, c'est un monde nouveau que j'ai découvert. Et il l'a découvert, il y a une part de contingence, hein, comme toujours. Il l'a découvert parce qu'un de ses anciens élèves a publié un ouvrage intitulé « Études d'histoire de psychologie du mysticisme, les grands mystiques chrétiens », Henri Delacroix, c'est un classique, dans lequel il faisait une part importante à Madame Guyon. Alors il y avait aussi Thérèse d'Avila, il y avait aussi Suzeau, mais Madame Guyon occupait la part essentielle. Et à vrai dire, Madame Guyon, pour des raisons qui sont propres à la France, elle avait été condamnée en France, était très peu lue ou alors caricaturée parfois à l'extrême.
Madame Guyon, rappelez-nous ces dates. Hein, elle est née au XVIIe siècle et elle est morte en 1710, je crois.
Oui, 1717.
17, pardon.
Juste après la fin du règne de Louis XIV. Donc elle naît en 1648. Elle vit assez longtemps pour l'époque. Hein. Elle naît en 1648. Elle meurt en 1717. Elle couvre au fond le règne de Louis XIV. Elle sera condamnée. Elle sera condamnée. Son quiétisme sera condamné par le roi, par Bossuet, ainsi que Fénelon, qui a été un de ses disciples en matière de spiritualité. Bon. Et Bergson découvre Madame Guyon à la suite de Delacroix, il se met à la lire. Et il se met à la lire avec passion. Il paraît, ses disciples disaient que quand il venait chez lui, il trouvait l'œuvre complète de Madame Guyon sur sa table de travail. Et en particulier, il y a, parmi les nombreux ouvrages de Madame Guyon, il y a un ouvrage tout à fait remarquable qui est intitulé « Sa vie par elle-même ». L'œuvre de Madame Guyon est vraiment extrêmement intéressante. Mais alors lui, ce qu'il découvre, au fond, Bergson, en découvrant le fait mystique, il découvre deux choses. La première, c'est qu'à ses yeux, il y a, à travers cette expérience, une sorte de rupture dans l'histoire humaine, mais surtout dans le rapport que les êtres humains ont à eux-mêmes. Et lorsque Bergson aura suffisamment poursuivi à maturation sa réflexion, cela débouchera, au fond, sur une distinction fondamentale des deux sources de la morale et de la religion, dont on aura certainement à reparler, le clos et l'ouvert, la distinction entre le clos et l'ouvert. Et
la deuxième chose... dynamique.
Voilà, exactement. Et la deuxième chose, donc ça, il y a une première chose très importante, c'est cette dimension de rupture. Puis la deuxième chose très importante, c'est, au fond, il s'aperçoit qu'avec les mystiques, il y a peut-être la possibilité d'aller poser philosophiquement le problème de Dieu sur le terrain de l'expérience. Et là, pour lui, c'est extrêmement important, parce que Bergson est vraiment un philosophe de l'expérience. Il déteste penser par construction conceptuelle. Non pas que le concept ne doive pas être présent, hein, mais il faut toujours partir de l'expérience. Et là, alors même que, en philosophie, depuis Emmanuel Kant, depuis la critique de la raison pure, il semblait clair que le terrain d'investigation philosophique, hein, de connaissance de Dieu, hein, d'investigation philosophique de la réalité qu'on nomme Dieu, qu'on estime qu'elle existe ou pas, en tout cas elle se manifeste chez les humains, eh bien ce terrain semblait bouché, c'est-à-dire on n'a pas les moyens de connaître Dieu parce que Dieu ne tombe pas dans les catégories de l'expérience humaine. Et là, avec les mystiques, Bergson se dit, mais n'y a-t-il pas là la manifestation d'une expérience que nous pourrions interroger, que le philosophe pourrait interroger et qui pourrait peut-être lui apprendre quelque chose. Donc voilà les deux raisons fondamentales qui l'ont fait s'intéresser à la mystique au moment où il commence à penser ce qui deviendra, qui n'est pas encore, n'est-ce pas ? Mais ce qui deviendra les deux sources de la morale et de la religion. C'est pour ça qu'on peut dire que la mystique a été un fil conducteur, véritablement.
Et puis la mystique d'Orient et d'Occident, puisqu'il s'intéresse aussi bien aux grands mystiques chrétiens qu'aux mystiques indiens, notamment Ramakrishna.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais Bergson a ceci de particulier, et aujourd'hui à vrai dire qu'on contesterait, c'est d'avoir établi une sorte de distinction entre le degré d'achèvement et de complétude des mystiques. C'est-à-dire qu'au fond, il estime que les mystiques antiques, les mystiques plotiniennes, les mystiques grecques, les mystiques hindous, bouddhistes, sont des mystiques au sens fort du terme, incontestablement. Mais à ses yeux, pas complètes. Il a établi une sorte de hiérarchie, de graduation, voilà, de graduation, dont on pourra voir les raisons ensuite. Mais il faut bien dire que ce qui est tout à fait étonnant et inattendu, et ce qui rend, au fond, les deux sources de la morale et de la religion, ce qui fait de cette œuvre une œuvre un peu particulière, hein, un peu difficile d'accès, c'est que, voilà un philosophe français du début du XXe siècle, dans la France de la laïcité, d'après 1905, qui pense qu'au cœur de l'histoire humaine, il y a la mystique. Et que la mystique explique, peut permettre de comprendre le pivotement, l'évolution, enfin, quelque chose qui, dans l'histoire de l'humanité, est arrivé et a changé sa destination, ou a manifesté pleinement quelle pouvait être sa destination. Si bien qu'on s'aperçoit que, quand on regarde la structure du livre, il y a 4 chapitres. Bon. Curieusement, il y en a un premier consacré à la morale, intitulé « L'obligation morale », puis il y en a 2 consacrés à la religion, et un 4e intitulé « Remarques finales, mécaniques et mystiques ». Mais alors, il y en a 2 consacrés à la religion, le deuxième des 2, hein, qui fait le 3e dans l'ouvrage, est centré totalement sur la mystique, et surtout, on s'aperçoit qu'en fait, dans le premier chapitre, c'est-à-dire dans la question relative à l'obligation morale, qu'est-ce qui nous oblige moralement, eh bien, déjà, la mystique est présente de manière décisive, c'est-à-dire qu'elle fait rupture par rapport à un certain type de morale, tout comme elle fera rupture par rapport à un certain type de religion.
Alors là, on atteint un point très important, qui est justement la morale close ou la religion close, par opposition à la morale ouverte ou la religion ouverte, qui sont d'un très grand intérêt de manière générale, mais alors d'un intérêt tout particulier ici aux Racines du Ciel, puisque ce sont des sujets sur lesquels, n'est-ce pas Frédéric, on est revenu maintes fois avec beaucoup de nos invités, de faire une distinction entre justement ces deux formes. Alors c'est vrai que ces adjectifs qu'il emploie sont particulièrement parlants, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'il entend par morale ou religion close, par opposition à morale ou religion ouverte ?
Voilà. Alors, lui dit, pour religion, il dit statique et dynamique. Mais au fond, ça veut dire la même chose. Mmh. Je veux dire, ça rapporte, le statique est clairement rapporté au clos, et le dynamique est clairement rapporté à l'ouvert. Ils en sont l'expression sur le plan religieux. Alors, comment comprendre cette opposition ? Au fond, si on se place, ici, on va peut-être se centrer sur le plan religieux d'abord. Bergson constate, comme tout le monde, que le fait religieux est universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout où il y a des sociétés, c'est ainsi qu'il commence son deuxième chapitre, partout où il y a des sociétés, partout où il y a des religions, des croyances, certaines complètement aberrantes, d'autres qui ont une profondeur, bon, mais il y en a partout. Et il cherche à saisir l'origine, à comprendre la genèse. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a peut-être pas partout des arts et des sciences, mais il y a partout du religieux ? Et il en vient à la conclusion qu'il y a une forme de religion naturelle qui est l'effet d'un travail qui se produit en nous, de quelque chose qui se passe en nous, et qui est le résultat de l'exercice de ce qu'il nomme la fonction fabulatrice. La fonction fabulatrice, un travail de l'imaginaire au sein de l'intelligence humaine qui produit des conceptions... fabuleuses, au fond, qui sont la source de toute la mythologie, qui sont la source de toutes les croyances, et croyances dont le sens est fondamentalement de préserver l'être humain. C'est-à-dire faire en sorte que sa vie puisse ne pas être trop radicalement exposée par l'intelligence elle-même, par les dangers de l'intelligence elle-même. L'être humain est intelligent, ça l'expose à un danger auquel les autres animaux ne sont pas exposés. En particulier, l'intelligence fait comprendre à l'être humain qu'il est mortel. L'intelligence fait comprendre à l'être humain que toutes les entreprises qu'il doit engager pour pouvoir vivre sont exposées à la contingence, à l'incertitude du résultat. Il est aussi capable de s'apercevoir de toute la précarité de sa vie. Et de ce point de vue-là, il y a une menace pour l'existence, que, au fond, la première destination du religieux, ce serait de parer à cette menace. La fonction, les productions fantasmagoriques, les productions de croyances qui vont accompagner l'être humain, les êtres humains ensemble, les êtres humains en communauté, ça soude aussi du lien social, ça fait du lien social. Ces croyances vont permettre à l'existence humaine d'avoir une assiette plus assurée. Mais ça, c'est de la fable.
Mais ce que j'allais dire, parce que petite parenthèse, Freud dit exactement la même chose dans L'avenir d'une illusion.
À la même époque.
À la même époque, L'avenir d'une illusion, où il dit c'est face au désemparement, à la désaide, à cette panique de l'humain qui découvre effectivement qu'il n'est pas protégé, qu'il est mortel, etc., qu'il a inventé la religion.
Tout à fait.
Donc ça, c'est le premier stade. Donc,
voilà. Et Bergson dirait même pas, c'est même pas une invention, c'est spontanément, ça vient spontanément. Il dit même qu'au fond de chacun de nous, alors même que nous vivons dans des sociétés qui sont beaucoup plus assurées, en tout cas qui pensent l'être, que celles de nos lointains aïeux, eh bien, même pour chacun de nous aujourd'hui, il y a encore sous-jacente cette fonction fabulatrice qui, si nous sommes dans des situations exceptionnelles, peut, à notre grande surprise,
ressortir,
oui, se mettre à fonctionner.
L'avion se met à avoir des turbulences trop fortes, on voit les pires athées qui disent, mon Dieu, à mon aide, viens à mon aide.
Voilà, ou qui produiront des représentations qui les aideront à traverser ce moment difficile.
En fait, ça fait partie des structures anthropologiques fondamentales, en réalité.
Exactement. Alors, on pourrait dire, très bien, la mystique en est, au fond, une forme plus vive, n'est-ce pas ? C'est une imagination plus vive.
La deuxième dimension.
Eh bien non, justement.
Justement non.
Alors, où est la rupture ?
Alors, la rupture, elle survient justement là, dans ce qu'il en est de l'expérience mystique. L'hypothèse bergsonienne est la suivante. Au fond, un mystique, qu'est-ce qu'un mystique d'abord ? Un mystique, c'est une personne qui affirme, qui pense vivre une présence de Dieu, une présence du principe, de la racine de toute chose, et qui pense dans son existence concrète, ici maintenant, vivre cette présence. Donc, au fond, être en relation intime avec Dieu, voire éventuellement vivre une union avec Dieu, soit une présence de Dieu, soit vivre une union avec Dieu. Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a des degrés, il y a une gradation dans l'approfondissement de l'expérience mystique, ça c'est très important. Donc, un mystique, c'est d'abord une personne qui pense vivre cela. Quand Bergson se pose la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui fait que c'est possible, est-ce que ça relève de la même chose ? Il fait une distinction très nette entre la productivité de la fonction fabulatrice et la puissance de la faculté d'intuition. Il rattache les expressions de la pensée mystique du côté d'un approfondissement de ce qu'il nomme, lui, l'intuition. Or, dans la pensée bergsonienne, qu'est-ce que l'intuition ? C'est ce qui permet un contact plus direct, intime, avec le réel lui-même. L'intuition fondamentale, celle par laquelle l'œuvre de Bergson, au fond, a commencé, s'est manifestée pour la première fois, l'intuition que nous faisons tous, c'est l'intuition de l'écoulement de la durée en nous. Cette intuition-là, donc, qui n'est pas une conception intellectuelle abstraite du temps des chiffres et des minutes juxtaposées aux minutes, mais qui est plutôt un flux continu par lequel nous vivons et allons de l'avant, gros du passé qui est là, que nous portons, et allant vers un avenir que nous créons, que nous ouvrons. Le seul fait de durer implique ça. Cette intuition, c'est coïncider avec ce mouvement. Or, le sentiment de Bergson, hein, et même sa pensée à ce sujet, c'est que, en approfondissant l'intuition, on peut aller au-delà de ce qui est à la portée de chacun d'entre nous, l'intuition de la durée, on peut aller jusqu'à l'intuition du courant même de la vie. Et c'était ce qu'il avait voulu montrer dans l'évolution créatrice. La question, c'est de la vie qui est adhérente à chacun de nous, à toute l'espèce, à tous les vivants. Mais est-ce que nous pouvons aller jusqu'à intuitionner ce qui est à la racine de la vie ? Et là, Bergson est obligé de reconnaître que, de toute évidence, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce n'est pas même à la portée du philosophe. Mais que si quelqu'un l'a fait, il semblerait que ce soit ceux que l'on appelle les mystiques. Et donc, il faut aller les interroger. Mais ce que Bergson perçoit, c'est que les mystiques, en remontant jusqu'à Dieu, sont porteurs avec eux de quelque chose qui change radicalement les structures mêmes de l'humanité et de l'espèce humaine. Et là, on rejoint la question du clos et de l'ouvert, du dynamique et du statique. Au fond, le clos et le statique, c'est d'abord se préserver. Une société qui se préserve entre soi et qui resserre les liens entre les amis en vue de s'opposer à ceux qui seront virtuellement des ennemis. On est clos. Et la religion a d'abord pour fonction de faire ça. Avec la mystique survient quelque chose qui tranche complètement. C'est-à-dire une autre forme de rapport entre les êtres humains, apercevoir tout autre être humain comme un frère. Et non pas comme soit un compatriote, soit un ennemi virtuel. Et au fond, la mystique, aux yeux de Bergson, c'est ce qui a introduit cette perspective. En ce sens, elle fait rupture. Elle fait rupture avec ce qui est immémorial, elle fait rupture avec la tendance que nous portons encore en nous à nous rassurer en nous refermant, elle fait rupture en ouvrant la perspective, en nous faisant sortir de nos dispositions fondamentales. Mais ça, si elle fait rupture, c'est parce qu'elle est porteuse de quelque chose qui nous dépasse et qui est advenu chez les mystiques et qui se communique.
Culture, les racines du ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Et pourquoi c'est si important que la philosophie se saisisse de ça, tout particulièrement?
Alors, aux yeux de Bergson, c'est très important que la philosophie se saisisse de cela pour deux raisons. Bon, la première, je l'avais évoquée, c'est au fond, si une connaissance de Dieu est possible, ce sera du côté de l'analyse et de l'effort pour comprendre et critiquer les discours et les attitudes mystiques, les actes mystiques. Il n'y a pas que des discours, il y a les discours, hein, très important, il y a les textes, parce que c'est une existence, pardon, c'est une expérience qui, par elle-même, n'est pas répétable à volonté, contrôlable par d'autres, n'est-ce pas ? Donc la parole et aussi les actes. Sont extrêmement importants. Il y a des hurluberlus, il y a des faussaires. Mais l'idée de Bergson, c'est que la philosophie aura à s'instruire en serrant au plus près ce qu'il en est de cette expérience. Si elle peut dire quelque chose de Dieu, ce sera à partir de là. Puis la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle la philosophie, à ses yeux, doit s'y intéresser, c'est à cause des effets de la mystique. Et il insiste beaucoup là-dessus sur la personnalité du Christ. Sur la personnalité du Christ des évangiles.
Le surmystique.
Oui. Oui.
Comme il l'appelle, oui.
Qu'il a nommé, voilà, tout à fait, dans des lettres.
Oui.
Le surmystique. C'est-à-dire, au fond, celui par lequel la rupture est survenue, qui a été ensuite imité et suivi par d'autres, peut-être égalé. Là, ça, c'est la question. Ça, c'est une question ouverte. C'est une des questions ouvertes de la pensée de Bergson. Mais en tout cas, quelque chose est survenu par le Christ en tant que surmystique. Et ce qui est survenu, c'est un changement d'orientation de l'histoire humaine. Et il y a derrière cela une philosophie de l'histoire de Henri Bergson dont il dessine l'esquisse au quatrième chapitre des deux sources, intitulé « Remarques finales » et avec le sous-titre « Mécanique et mystique ». Et cette philosophie de l'histoire, dont il donne les prémices au fond, est consiste à dire, en deux mots, consiste à dire, il y a une tendance forte qui se manifeste dans les communautés humaines par l'œuvre même des mystiques en tant qu'elle a rayonné. Et elle a rayonné à partir de l'émotion créatrice, dit-il, que les mystiques ont suscité autour d'eux. Car, ça c'est très important, ça rejoint ce qu'on disait à propos de notre séminaire mystique et figure mystique. La mystique n'est pas quelque chose d'isolé. Ça a toujours rapport au corps social. Les mystiques ne sont pas ermites. Ou plutôt, s'ils le sont, ils le sont un moment. Ils le sont un moment qui est le moment de l'expérience assez violente et radicale, qui est la leur. Approfondir l'expérience mystique, on y reviendra peut-être. C'est quelque chose de tout à fait redoutable et de tout à fait radical. Mais les mystiques, en tant qu'ils sont transporteurs de cette expérience qu'ils ont traversée, transmettent quelque chose. On n'a pas besoin de les forcer à revenir vers les hommes. Comme Platon disait, il faudra forcer le philosophe sorti de la caverne qui ne voudrait plus rentrer, il faudra le contraindre.
En fait, c'est les hommes qui vont dans la caverne chercher le mystique.
C'est les mystiques qui reviennent d'eux-mêmes et qui reviennent, au fond, ils reviennent d'eux-mêmes dans la caverne pour une bonne raison, qui est qu'ils sont porteurs de quelque chose, et pour ça, pour Bergson, c'est l'enseignement le plus important, ils sont porteurs de l'amour de Dieu.
Voilà, et ce qui est, je crois qu'un des éléments importants pour Bergson, c'est cette dimension de l'action. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur le caractère de l'action, que vous disiez, donc de l'impact social du mysticisme, de la force créatrice dont il est porteur, et il parle d'un mysticisme chaud, dans ce sens-là, qui réchauffe, qui apporte cet élément qui va ensuite se refroidir par l'institutionnalisation du phénomène mystique, mais qui sera réactivé par les nouveaux mystiques qui vont s'inscrire dans cette chaîne d'expérientieurs, de ceux qui font une expérience, et qui va permettre à nouveau de réchauffer la religion qui a tendance toujours à se refroidir.
Exactement, exactement, comme une structure qui se... Alors il dit, ce qui est vrai, il a une belle phrase, il dit des mystiques, ils ne demandent rien... Et pourtant, ils obtiennent. Ils n'ont pas à exhorter, ils n'ont qu'à exister. Leur existence est un appel. Et il a été très frappé, par exemple, par ce qui se passe dans le sillage de François d'Assise, qui n'a aucun pouvoir politique, qui est en tant que puissance tout à fait dérisoire, et qui prend une posture dérisoire. Il renonce à tout. Et qui, en quelques années, se voit entouré de plusieurs milliers de disciples. Donc il est très frappé par ça, et par effectivement, comme vous disiez, ce caractère chaud, c'est-à-dire ça suscite un mouvement de transformation de la vie. On voit la vie autrement. On voit la vie autrement et on passe à l'acte. Alors après, toute la question, c'est l'institutionnalisation, c'est-à-dire au fond, c'est dans la durée. Il y a deux problèmes. C'est que être un mystique complet, c'est très rare. C'est un phénomène exceptionnel. En revanche, beaucoup sont sensibles à la réalité mystique et sont déjà en voie d'être transformés, mais n'iront pas aussi loin. Donc évidemment, l'institution fonctionne alors comme un relais nécessaire. Mais l'institution, comme toujours, c'est ce qui va tendre à clôturer.
Vous avez parlé justement du mystique complet. Peut-être qu'on peut entendre la voix de Bergson lui-même dans les deux sources de la morale et de la religion évoquer justement cette expérience qui est au cœur de la mystique et comment elle se réalise dans le sens français du terme. C'est-à-dire vraiment, elle se déploie dans le réel à la fois visible et invisible. Ébranlée dans ses profondeurs par le courant qui l'entraînera, l'âme cesse de tourner sur elle-même. Échappant un instant à la loi qui veut que l'espèce et l'individu se conditionnent l'un l'autre circulairement. Elle s'arrête, comme si elle écoutait une voix qui l'appelle. Puis, elle se laisse porter, droit en avant. Elle ne perçoit pas directement la force qui la meut, mais elle en sent l'indéfinissable présence, ou la devine à travers une vision symbolique. Vient alors une immensité de joie, extase où elle s'absorbe au ravissement qu'elle subit. Dieu est là et elle est en lui. Plus de mystère. Les problèmes s'évanouissent, les obscurités se dissipent. C'est une illumination. Mais pour combien de temps ? Une imperceptible inquiétude qui planait sur l'extase descend et s'attache à elle comme son ombre. Elle suffirait déjà, même sans les états qui vont suivre, à distinguer le mysticisme vrai, complet, de ce qui en fut jadis l'imitation anticipée ou la préparation. Elle montre, en effet, que l'âme du grand mystique ne s'arrête pas à l'extase comme au terme d'un voyage. C'est bien le repos, si l'on veut, mais comme à une station où la machine resterait sous pression, le mouvement se continuant en ébranlement sur place dans l'attente d'un nouveau bond en avant. Disons plus précisément, l'union avec Dieu a beau être étroite, elle ne serait définitive que si elle était totale. Alors je ne lis pas la totalité du texte, mais c'est très difficile de couper Bergson, parce que c'est vrai que sa pensée est une sorte de continuum comme ça. Alors couper dans le texte, c'est évidemment un crève-cœur, donc j'invite nos auditeurs à lire tout le texte en réalité. Mais là, on est vraiment au cœur de ça, et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que vous dites par ailleurs dans certains articles, vous rapportez, vous citez certaines lettres de Bergson, il dit que lui-même n'a pas vécu ces états mystiques. Mais voilà, on a quand même l'impression que c'est plus qu'une expérience à distance qu'il aurait eue. Ça m'a l'air très, très profondément compris, en fait.
Oui, je le pense aussi. Mais Bergson, là-dessus, est toujours extrêmement discret. C'est-à-dire qu'il ne tient absolument pas à dire ce qu'il vit lui-même, le point jusqu'où il a été, c'est clair, il le reconnaît auprès de ses amis, hein, qu'il a été touché par l'expérience elle-même. C'est d'ailleurs assez bergsonien. L'idée même de Bergson, c'est d'abord d'être capable de faire une analyse critique, réunir toujours le maximum de connaissances sur la réalité que l'on veut connaître à propos de la réalité que l'on veut connaître, mais aussi sympathiser, lier les deux. Analyse, sympathie, lier les deux. Mais au fond, ce qui compte mais il aurait certainement dit que, somme toute, ce qu'il a vécu n'a pas d'importance, mais que ce qui importe, c'est de saisir ce qui se passe dans l'humain à travers une telle expérience, ce qu'elle signifie. Et il y a un moment décisif dans l'expérience mystique, pour qu'elle devienne, comme il dit, complète. C'est qu'on ne s'arrête pas à l'extase. L'extase, c'est-à-dire la sortie de soi et le sentiment extrêmement fort d'une présence de Dieu. Un sentiment, tous ils le disent, que ce soit des petits ou des grands mystiques, toutes sortes de... ils disent, c'est quelque chose d'absolument inoubliable. Mais seulement l'extase n'est qu'un moment. Et au fond, pas le moment le plus important, si on considère l'ensemble de l'expérience. Le moment le plus important, c'est le moment de métamorphose, qui est aussi le moment le plus difficile, souvent caractérisé par sécheresse, nuit obscure, qui sont liées au fait que le mystique comprend à un moment donné qu'il est appelé à autre chose qu'à simplement contempler. Comme si Dieu l'appelait à autre chose, mais Dieu l'appelait à ce que la volonté de celui qui dit qui aime Dieu, de ce que la volonté soit imprégnée par la volonté divine, saisie par la volonté divine. Et ça demande quelque chose d'extrêmement difficile, qui est une sorte de critique radicale de soi, mais pas au sens intellectuel ici. Hein, il s'agit de faire craquer des choses qui sont très profondément enracinées et qui ont directement partie liée avec l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est une réalité naturelle contre laquelle il est extrêmement difficile d'aller.
Alors, est-ce que Bergson a quand même un peu plus étudié, à part le cas de Ramakrishna qu'il cite très explicitement, est-ce qu'il a un peu étudié la philosophie du Vedanta hindou ou du bouddhisme, qui stipule quelque chose de très profond, c'est qu'au fond, on s'identifie à notre moi, à notre ego, alors qu'on a un esprit ou un soi supérieur qui n'est pas qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus radical, et qui nous met en lien avec l'absolu, avec le divin, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qu'il faut cesser de s'identifier à cette personnalité, à cet ego qui fait que ce qui est agréable, on le recherche, ce qui est désagréable, on le refuse, etc. Et ça donnerait une espèce de profondeur, si vous voulez, métaphysique, à cette expérience mystique. C'est déjà une explication qu'ont donné les orientaux du phénomène mystique où le moi craque de partout par cette expérience avec l'absolu. Et j'aimerais savoir si Bergson s'est intéressé à la spiritualité orientale dans sa profondeur métaphysique et philosophique.
Alors, il s'y est intéressé, mais certainement pas suffisamment. En tout cas, il a été frappé dans les pages qu'il consacre à la mystique orientale. Il a été frappé par le fait qu'il s'agit de dissoudre les structures du moi. Alors, il dit simplement que ce qui manque, c'est d'être réhabité par Dieu comme personne.
Oui, qu'il est tributaire quand même du christianisme totalement.
Clairement, il est clairement tributaire du christianisme. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, quand il s'agit de la critique de la personne qui s'affirme elle-même, on a affaire à la question du clos. Parce que l'amour de soi qui nous constitue, c'est d'abord se considérer comme centre. C'est-à-dire comme lieu privilégié d'expérience et lieu à partir duquel, chacun d'entre nous, lieu à partir duquel l'expérience se distribue et s'organise. Et ça, dans l'expérience mystique, ça correspond à quelque chose de très spécifique qui est, on est tant bouleversé par la présence, ce que Madame Guyon nomme la foi savoureuse, par la présence de Dieu, en étant bouleversé par cette présence qu'on voudrait la garder pour soi. On peut rester enfermé entre soi-même et Dieu, simplement.
Mais tout simplement parce qu'on duel à Dieu. Tout simplement parce qu'on continue à penser moi. C'est-à-dire, tant qu'on se constitue comme un moi et qu'on s'identifie à ce moi, effectivement, on ne peut rester que dans cette dualité, d'une certaine manière.
Absolument.
Et c'est là que l'expérience orientale est très intéressante, parce qu'elle dit, effectivement, il faut sortir de cette identification au moi pour comprendre qu'on est une parcelle de ce divin absolu qui nous possède.
Oui.
Alors, ça change tout.
Alors simplement,
on est dans la non-dualité.
Voilà. Alors simplement, ce ne sera pas parcelle chez Bergson. Ce sera l'idée, au fond, ce sera la découverte que l'amour n'est pas plein tant qu'on n'est pas sûr que ce qu'on aime dans l'amour, c'est ce qu'on reçoit et ce qui nous gratifie plus que l'objet, plus que ce que l'on aime. Dire l'objet aimé, ça ici, ça correspondrait pas, mais plus que ce que l'on aime. Si l'on aime plus ce qui nous est donné et qui nous gratifie, en fait, et c'est ça la déréliction des mystiques, c'est de se dire, mais quand ils disent de manière un peu spectaculaire, les mystiques de la tradition classique, je suis damné, ça veut dire, au fond, je n'ai jamais aimé que moi, j'ai cru que j'aimais Dieu, mais je ne l'aimais pas, j'aimais ce qu'il me donnait. Question qu'on retrouve d'ailleurs dans toute relation, alors si on veut,
bien sûr,
humaine, sait-on jamais pourquoi on aime ? Est-ce qu'on aime vraiment l'autre parce qu'il est l'autre ?
Et du jour où on nous aime plus, on déteste, alors il y a un problème.
Et là, c'est le moment le plus terrible parce que tout peut basculer, au sens où le mystique est véritablement en danger. La nuit obscure est quelque chose de grave. Dominique Marie Dauzet, qui a écrit sur l'écriture féminine de la mystique au 19e, 20e siècle, un beau livre, La mystique bien tempérée, montrait que certaines mystiques sombrent à ce moment-là. Ça peut conduire à la mort. Ce moment-là à traverser est vraiment très difficile. Mais lorsque la traversée a pu se faire, pour ceux qui y ont été, et au fond, en fait, on choisit pas d'y aller, hein, à vrai dire, je pense, mais ceux qui y ont été et qui ont traversé, plus ou moins difficilement, Jean-Joseph Surin, c'est 20 ans de déréliction, Madame Guyon, c'est 5 ans.
Thérèse d'Avila aussi parle de cette longue traversée.
Tout à fait. Et Jean de la Croix,
aussi,
qui est cité aussi par Bergson.
Absolument, auquel il accordait beaucoup d'importance. Mais une fois que cette traversée a eu lieu, quelque chose s'est produit, une métamorphose. C'est-à-dire que là, cette fois, la volonté, au fond, ils illustrent du pater, ils illustreraient que ta volonté soit faite, c'est-à-dire la volonté humaine est vraiment saisie par Dieu, et ils vont aux hommes de manière radicalement transformée, mais non spectaculaire. C'est-à-dire, à la fin de ces trois pages, dont on a commencé la lecture, hein, il dit, au fond, à ce moment-là, plus rien ne distingue le mystique d'un autre homme qui passe en apparence extérieure, alors qu'au début, il y aura toujours des choses un peu originales, rien que par le le fait de s'être retiré, le fait de vivre une vie d'oraison, une vie de prière, très, très soutenue, très forte, ça donne à la personnalité, on dira, elle est singulière tout de même, elle est originale. Et au fond, mais au moment où l'expérience est vraiment traversée, où il y a, d'après les mystiques, alors Madame Guyon là-dessus est très nette, mais aussi Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, il y a un autre type de relation aux êtres humains qui s'inaugure, et alors ce qu'on disait tout à l'heure, à travers l'émotion créatrice, un rayonnement. Et ce qui étonne Bergson, c'est comment, alors que c'est une histoire d'abord toute personnelle, comment la mystique en vient à travailler, à irriguer l'histoire collective des êtres humains. Et il en vient même à penser qu'il y a une tension ainsi qui se joue entre le clos et l'ouvert, hein, dans une espèce de double frénésie. Soit on cherche à s'assurer mondainement, soit on cherche à s'ouvrir. Il y a une tension continue. Et cette tension révèle le sens même de l'existence humaine. C'est-à-dire, au fond, le sens, c'est manifester dans la création l'amour de Dieu. Au fond, ça revient à dire, somme toute, qu'est-ce que nous apprend la mystique ? Elle nous apprend que Dieu est un être relationnel. Il est relation. Et il est relation et il est don pur. Il est le miracle du don absolument gratuit. Mais du coup, tout se passe comme si. Tout se passe comme si Dieu attendait des créatures qu'elles soient comme une réponse à son amour, mais et que évidemment, ça se manifeste parce que l'amour est une traversée. L'amour est un don. Il n'est pas un capital. Il est un don. De même, donc Dieu, en ce sens, n'est pas un être dont la caractéristique première, c'est d'être le tout puissant, le plus puissant de tous les êtres. C'est d'abord de donner. Et c'est une des raisons c'est la deuxième raison qui fait que Bergson dit ça intéresse le philosophe parce que le philosophe qui veut comprendre l'histoire humaine sera interpellé par les effets dans l'histoire de la mystique. Même à une époque comme la nôtre, où on semble plus éloigné que jamais d'une présence mystique forte dans la société, somme toute.
Mais d'une certaine façon, tout ce que vous venez de dire peut s'appliquer à une mystique pour laquelle vous avez une prédilection particulière, qui est Simone Veil. En fait, tout ce que vous venez de dire là, au sujet du don de Dieu, de la façon dont d'abord Dieu se donne, puis il agit dans le mystique, et donc à travers lui dans le monde, et comment il faut s'arracher, se déposséder de soi-même, c'est pas qu'il faut, c'est que simplement la traversée de la dépossession est le préalable à l'advenue de ce don divin. Tout ça, ça s'applique en fait à Simone Veil, quasiment mot pour mot. Est-ce qu'elle a été directement inspirée par Bergson ou elle a juste fait une expérience qui se trouve venir se croiser avec celle dont parle Bergson?
Alors elle a fait une expérience mystique authentique et même intégrale, radicale, d'une extraordinaire âpreté quand on lit ses textes. Hein. Alors il y a un point sur lequel elle se distinguera fortement de Bergson, c'est la question de l'histoire. Et bon, par ailleurs, elle n'aime pas Bergson. Alors ça, c'est lié au fait aussi à sa formation. Elle est disciple d'Alain.
Bien sûr.
Et c'est le moment où, en France, entre Hegel, le marxisme, il y a une critique forte d'une philosophie qui a été dominante, hein, au début du XXe siècle, le bergsonisme, n'est-ce pas? Donc elle, comme jeune femme, jeune agrégée, elle s'oppose à Bergson et elle estime... Alors manifestement, il y a une mécompréhension à propos du statut de ce que Bergson nomme l'élan vital. Hein. Alors elle dit que c'est du paganisme, Bergson. Bon. Donc il y a un malentendu, il y a une compréhension. Mais au fond, ça, c'est pas très important ni très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est dans l'expérience mystique, en quoi ça se rejoint. Il y a un point fondamental, hein, c'est celui de ce qu'elle nomme la décréation. Alors l'autre point, je vais revenir dans un instant sur la décréation, mais l'autre point qui est l'histoire, c'est un point de désaccord, et là, profond. C'est-à-dire que Simone Veil n'a pas l'optimisme bergsonien qui consiste à penser qu'il y a un effort qui passe à travers les humains. Un effort qui pourrait, à la limite, asymptotiquement, faire de l'humanité une réalité divinisée. Simone Veil, peut-être est-elle plus lucide. En tout cas, Simone Veil estime que c'est pas du tout de cela qu'il s'agit, hélas, dans la réalité de la création, que la création est d'abord un rapport entre des forces, que la force occupe une situation centrale, qu'elle détermine presque tout, sauf qu'il y a des éclats surnaturels. Et les éclats surnaturels sont les manifestations au sein du créé, sont le signe, la manifestation, la présence de Dieu, de la grâce divine, qui fait irruption. Mais alors, cette grâce divine qui fait irruption conduit à l'exigence de la décréation. Et là, il y a quelque chose d'analogue qui renvoie à ce que Bergson dit, c'est-à-dire ce que Bergson lui-même a étudié, rencontre dans la mystique. Décréation, c'est-à-dire se retirer, consentir à ne plus se poser comme un centre. Laisser passer Dieu à travers nous. Et c'est en consentant radicalement à renoncer à soi que Dieu peut passer à travers nous et, paradoxalement, nous aimer. Il ne peut nous aimer que dans la mesure où nous renonçons à nous, mais très exactement comme lui-même, Dieu, a renoncé à lui en créant. Il y a quelque chose qui renvoie au Tzimtzoum ici.
Ce que je veux dire, c'est très kabbalistique tout ça.
Mais oui, c'est curieux, hein, elle qui était tellement anti-judaïque.
Hein, elle connaissait cette théorie de la Kabbale d'Isaac Luria ou pas spécialement?
Non, manifestement, il n'y a pas de texte qui dise que... Non. Rien ne permet de penser qu'elle connaissait cette théorie, mais au fond, ça renvoie aussi à l'idée de kénose. Dieu,
oui, alors l'incarnation,
mais Dieu se vide. Alors là, elle dit, mais c'est vraiment beaucoup plus proche du Tzimtzoum et de la Kabbale. Elle dit, Dieu, pour créer, s'est retiré. Et il nous demande, librement, c'est pour ça que nous sommes des centres qui pourrions revendiquer nos statuts de centre jusqu'au bout et exercer notre force autant qu'il est possible. Il attend de nous, il appelle, il quémande pour que nous consentions à faire de même, donc à lui répondre. C'est-à-dire nous-mêmes nous retirer. Et dans cette mutualité du retrait, il y a l'amour qui passe.
Et peut-être que nous pouvons achever justement sur un court texte, Simone Veil, que vous nous avez apporté, dans lequel il y a son accord quand même avec Bergson, qui est justement sur ce point de l'effacement pour que advienne l'amour divin. Cet extrait de La pesanteur et la grâce, et je crois que ça conclut bien tout ce que nous venons de dire. Ce que le crayon est pour moi quand les yeux fermés je palpe la table avec la pointe, être cela pour le Christ. Nous avons la possibilité d'être des médiateurs entre Dieu et la partie de création qui nous est confiée. Il faut notre consentement pour qu'à travers nous, il perçoive sa propre création. Avec notre consentement, il opère cette merveille. Il suffirait que j'aie su me retirer de ma propre âme pour que cette table que j'ai devant moi ait l'incomparable fortune d'être vue par Dieu. Dieu ne peut aimer en nous que ce consentement à nous retirer pour le laisser passer, comme lui-même créateur s'est retiré pour nous laisser être. Cette double opération n'a pas d'autre sens que l'amour, comme le père donne à son enfant, ce qui permettra à l'enfant de faire un présent le jour de l'anniversaire de son père. Dieu, qui n'est pas autre chose qu'amour, n'a pas créé autre chose que de l'amour.
Donc c'est ce magnifique texte de Simone Veil qui nous a clore cette conversation avec vous, mais pas tout à fait l'émission, puisqu'il reste quelques minutes pour la chronique mensuelle de Marie Dalquier. Bonjour Marie.
Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de deux très beaux livres, très bien illustrés, sur la Bible. Un premier qui s'appelle « Une Bible ». Alors c'est « Une Bible » aux éditions Gauthier-Langros. Les textes sont de Philips Lechermer et l'illustration de Rebecca Dautmer, qui est une illustration assez connue, notamment dans les livres jeunesse. Justement, c'est un livre d'enfants pour adultes. On est nombreux à souvent avoir senti que dans la Bible, il pouvait manquer quelque chose, que ce qui nous donnait et ce qui était écrit pouvait imposer un message de foi, que les idées étaient souvent trop lourdes ou même difficiles à porter ou à réaliser. Eh bien, ce livre, Une Bible, nous raconte la Bible à notre cœur d'enfant, avec le langage de l'amour universel, et il nous transmet ce texte fondateur de notre civilisation sans aucune interprétation religieuse. Alors, de la Genèse à la résurrection de Jésus, l'Ancien, le Nouveau Testament, Philips Lechermer réalise un pur exercice de style. Il joue des codes littéraires, il utilise le récit, le poème, la chanson, l'énumération, le conte, la pièce de théâtre. Et tous ces mots sont portés par les illustrations éblouissantes de Rebecca Dautmer, en noir et blanc, en couleur, au crayon, à l'encre. Elle nous plonge dans les décors anciens, contemporains, elle dessine la beauté de la nature, elle peint la beauté humaine, elle l'amène à son essence ultime. Dans la partie sur le livre des rois, Saul est en armure, mais il a les bras nus, bandé de sa dernière bataille, et il mange délicatement des baies sauvages. La couverture, vous pourrez la reconnaître, c'est celle de l'homme-oiseau, mi-homme, mi-femme, mi-planeur, mi-oiseau. Elle illustre le Nouveau Testament. Voilà, c'est une Bible chez Gauthier Langros de Philippe Lerchermer et Rebecca Dautmer. Je vous le conseille, c'est un livre absolument magnifique. Et puis un deuxième livre sur la Bible, alors là c'est un livre qui s'appelle Chagall, Voyage dans la Bible. Étude inédite et gouache, édition Mardaga. Il se trouve que Marc Chagall a réalisé 40 gouaches pour préparer une illustration dans les années 30 de la Bible à la demande de l'éditeur Ambroise Vollard. Et récemment, on a découvert qu'il y avait 22 études inédites, des aquarelles, des gouaches, des pastels, des encres, du crayon, qui bouleversent complètement la compréhension qu'on avait faite de l'interprétation de Chagall. Alors, ce très beau livre avec des belles illustrations. Alors, on a trois textes très riches qui sont faits par trois auteurs femmes, deux conservatrices et une universitaire, qui nous racontent l'œuvre de Chagall à travers les icônes, la philosophie russe, l'art grec. Et c'est très intéressant parce que on comprend vraiment à quel point Chagall ressentait l'inquiétude et les menaces sourdes du temps tragique qui s'annonce. Voilà, c'est Chagall, Voyage dans la Bible, étude inédite et gouache aux éditions Mardaga. Vous pourrez retrouver toutes ces gouaches et toutes ces œuvres de Chagall autour de la Bible, car le Musée national Chagall à Nice présente jusqu'au 9 mars 2015 l'exposition Marc Chagall, des couleurs pour la Bible.
Merci Marie et merci beaucoup aussi Ghislain Waterloo. Venu nous parler de ce thème mystique, philosophie et de Bergson en particulier.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.